France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le trumpisme, justement, est-il devenu plus grand que Donald Trump lui-même? C'est ce qu'affirme l'historienne spécialiste de l'Amérique contemporaine Maya Kandel dans son nouvel essai intitulé « Une première histoire du trumpisme » qui est apparu aux éditions Gallimard. Alors comment justement l'histoire peut-elle se raconter et comment décrire ce trumpisme en tant qu'historienne? Et au fond, qu'est-ce que le trumpisme? Est-ce un mouvement révolutionnaire ou opportuniste? Pour en parler donc, vous l'aurez compris, Maya Kandel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis, autrice notamment de cet ouvrage intitulé « Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump » qui apparaît aux éditions Perrin, c'était en 2018. Et vous faites paraître récemment une première histoire du trumpisme aux éditions Gallimard dans la collection « En attendant le réel ». Merci d'être venu ce soir dans « Question du soir ». La semaine dernière, Maya Kandel, Donald Trump a fait paraître sur son propre réseau social, Truth Social, un montage photo de lui-même en noir et blanc avec une légende qui indiquait « Il est en mission divine et personne ne peut arrêter ce qui vient ». Fin de citation. Qu'est-ce que cette image, ce montage raconte du trumpisme lui-même ?
Alors ce montage, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Ça parle avant tout de Trump et je crois que c'est justement le facteur perturbateur dans le trumpisme que j'ai essayé de raconter dans le livre. Trump, c'est quelqu'un qui va avoir 78 ans, hein, qui donc a une longue carrière derrière lui, qui s'est créé un personnage vraiment et qui s'est conformé, qui est devenu ce personnage. Je pense qu'il n'a pas changé, mais il a été marqué quand même par l'attentat manqué du 13 juillet, qui a développer un peu cet aspect messianique. Je lisais en revanche un article la semaine dernière aux États-Unis qui disait est-ce que Donald Trump se prend pour Dieu ? Et c'est vrai que parfois, quand on voit certaines de ses saillies les plus récentes, on peut se poser la question.
On est en plein dedans. Il y a un côté absolument messianique chez Donald Trump. Et si on tente de circonscrire justement ce qu'est véritablement le trumpisme du point de vue des sciences sociales, vous dites aussi que le trumpisme, c'est un retour aux empires, un retour à la notion très américaine tout de même, de l'Empire. Il faut nous expliquer comment et pourquoi.
Alors, c'est un des aspects. Hein, et
justement, on va essayer de les décliner dans cet échange.
Oui, alors là, c'est plus dans la dimension du trumpisme qui a vraiment transformé la politique étrangère des États-Unis et le rapport au monde du pays. C'est assez logique, c'est un nationalisme, le trumpisme, parmi les autres ismes qu'il représente. Et donc, la question de l'identité et du rapport au monde, ces deux questions sont centrales. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aspects que Trump avait essayé de développer pendant son premier mandat, qu'il n'avait pas pu pour toute une série de raisons. Il n'était pas prêt, il n'était pas entouré de cadres qui était à même ou qui avait envie de mettre en œuvre cette vision. Mais là, c'est vrai qu'on a vu dès le discours d'inauguration cette dimension messianique, cette référence à l'histoire des États-Unis, à la destinée manifeste. Aujourd'hui, il y avait déjà cet aspect de réactivation de la doctrine Monroe pendant le premier mandat, la volonté de vraiment cette idée de l'Amérique au sens des Amériques en fait aux Américains. Là, on a l'impression bien sûr que ça va un peu plus loin. Bon, dès la transition, il parlait d'annexer le Groenland, le Canada, le canal du Panama, et là, on est effectivement dans cette dimension impériale qui voit toute cette zone proche des États-Unis comme étant vraiment la sphère d'influence des États-Unis. Et c'est vrai que là, il rejoint cette vision un peu qui est propre aussi à la Russie, à la Chine, hein, de dire on est dans une nouvelle ère des relations internationales où chaque grande puissance a le droit un droit de regard, voire de propriété sur sa sphère d'influence, c'est-à-dire tous les pays proches.
Vous avez parlé du premier mandat. Retour aux sources, donc, à travers un discours du 30 septembre 2016. Donald Trump se situe alors en Pennsylvanie. Il revient sur le fait que l'on tente de dépouiller les États-Unis de ses richesses et de ses emplois.
Nous allons nous attaquer aux accords commerciaux désastreux, comme les accords de libre-échange qui ont écrasé l'industrie en Pennsylvanie. Nous allons renégocier cela. Nous allons proposer de nouveaux accords où nous allons les résilier et tout recommencer. Nous en sortirons grandis. Nous avons perdu tellement d'argent, tellement d'emplois. Votre État a perdu trop d'emplois depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, un accord signé par Bill Clinton et soutenu par Hillary Clinton, une femme véreuse. Les emplois sont transférés au Mexique et vous avez perdu un emploi sur quatre depuis que la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Hillary Clinton n'est que le reflet de ses intérêts mondiaux qui tentent de dépouiller notre pays de ses richesses, de ses emplois et de son statut de nation souveraine. Elle est une mondialiste qui gagne sa vie en prenant des emplois dans notre pays pour les donner à des pays étrangers.
Who makes a living taking jobs from our country and giving them to foreign countries.
Maya Kandel, le trumpisme, c'est véritablement un anti-mondialisme, pour reprendre le verbiage de certains de ses soutiens d'ailleurs.
Alors, c'est au cœur de sa stratégie de communication politique, ça c'est clair. Et puis c'est vrai que, alors Trump, c'est pas un intellectuel ni un idéologue, mais il avait des idées fixes en politique depuis les années 80, depuis la première fois qu'il avait pensé à se présenter à une présidentielle. Et comme c'est un businessman, au cœur de cette idée, il y avait la remise en cause du libre-échange. Il y avait cette idée que le déficit commercial était la preuve que les États-Unis se faisaient avoir, pour reprendre sa manière de parler, par le reste du monde et tout particulièrement par les alliés. Ensuite, il a ajouté la Chine. Et si on se replace dans le contexte de 2016, la victoire de Trump aux primaires républicaines, d'abord, c'est vraiment une révolte populiste contre les élites du Parti républicain à ce moment-là, qui est encore le parti de Reagan, donc vraiment très ouvert au libre-échange, avec une politique étrangère interventionniste et ouvert également à l'immigration. Trump renverse ces trois piliers.
Vous écrivez par ailleurs que le trumpisme est un phénomène de son temps, à la fois paresseux et réducteur, de le ramener au fascisme. Expliquez-nous cela.
Alors, c'est vrai que Trump a toujours besoin, que ce soit en 2016, 2020 ou 2024, il a besoin du racisme, il a besoin d'une rhétorique qui est parfois franchement fasciste pour gagner les primaires républicaines. C'est ça qui active la base, c'est ça qui lui permet de remporter les primaires. Encore une fois, en 2024, il avait beaucoup de candidats contre lui. Moi, ce que j'ai toujours... Quand il dit « les immigrés empoisonnent le sang du pays », évidemment, c'est direct de Mein Kampf de Hitler. C'est une rhétorique fasciste. Après, c'était plus simplement pour dire qu'il y avait des aspects vraiment contemporains dans le trumpisme. Et réduire ça au fascisme, ça avait tendance à clore la discussion dans différents débats dans lesquels j'ai été. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye. En fait, tout le livre est une tentative de décrire ces différentes facettes sans juste se référer au fascisme européen des années 30.
Mais c'est intéressant, Maya Kandel, ce que vous dites là. En tant qu'historienne, vous entreprenez une histoire récente, justement, du trumpisme. Et on a eu beaucoup tendance, notamment en janvier, février, en mars dernier, à utiliser des concepts historiques pour tenter de décrypter ce que l'on voyait, ce que l'on apercevait du trumpisme. On entendait beaucoup parler de fascisme, de nazisme. On évoquait le risque d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il faut se méfier, selon vous, du recours à ces concepts historiques, ou est-ce qu'il faut les mobiliser à juste titre, à bon escient ?
Non, c'est très utile. Moi, je trouve l'approche comparative est très utile. Les références historiques sont très utiles. Là, très modestement, une première histoire du trumpisme, c'est simplement pour dire, d'une part, qu'il y a déjà une certaine profondeur historique du phénomène. Donc, c'était l'occasion de donner aussi des clés de compréhension et des cadres d'analyse pour ce retour de Trump. Ça me paraissait utile de partager notamment certains aspects que j'ai suivis vraiment de près depuis quelques années. Et là, d'ailleurs, ça c'est une discussion que j'avais eue avec un spécialiste du nazisme. Trump offre aux masses le spectacle du trumpisme, mais il y a aussi des théoriciens des idéologues qui vont théoriser le trumpisme dans des dimensions vraiment plus précises politiques pour les élites, pour cette nouvelle contre-élite qui accompagne ce retour de Trump au pouvoir. Donc là, la comparaison est utile, par exemple.
Est-ce que c'est cela que vous voulez dire, notamment lorsque vous écrivez que le trumpisme est plus grand que Donald Trump lui-même ? Est-ce que cela veut dire que d'ores et déjà la profondeur historique existe et qu'il faut la décrypter, l'examiner, la comprendre ?
Je crois qu'il y a deux points. La profondeur historique, c'était aussi pour expliquer, parce que quand Trump arrive sur la scène politique aux États-Unis en 2015, il est déjà connu de tous les Américains, notamment grâce à son émission de télé-réalité dont il a fait 14 saisons. Et c'est vraiment dans cette émission qu'il forge ce personnage de soi-disant self-made man, qui n'est pas du tout, de personnage très bravache, qui met en scène sa famille, qui efface toute distinction entre sa vie privée et sa vie publique. En France, à ce moment-là, il n'est pas encore connu, donc ça me paraissait utile de rappeler toutes ces vies antérieures de Trump qui arrive, qui a déjà 70 ans en 2016 en réalité, donc toute une vie derrière lui. Et puis, au-delà, encore une fois, raconter les personnes qui ont théorisé et qui aujourd'hui, qui ont construit un programme de plus de 900 pages, qui ont eu le temps de préparer le retour au pouvoir de Trump. Trump lui-même s'est préparé, hein, mais entre, on a quand même un cas assez inédit dans l'histoire américaine. Il y a eu un cas antérieur d'une équipe, d'une administration, d'un président qui reviennent au pouvoir après 4 ans et donc qui sont extrêmement reposés, ce qui est déjà important. Et puis surtout qui ont vraiment travaillé, préparé les décrets. On le voit sur toutes sortes de mesures les plus frappantes, que ce soit sur l'immigration ou sur les droits de douane, sur le commerce. Beaucoup de choses sont retoquées dans les tribunaux ou par les différentes cours de justice. Et ensuite, ils sortent une autre stratégie. Et on l'a vu tout simplement dans l'avalanche de décrets qui sont arrivés dès le premier jour. C'était une équipe qui était très préparée et tout ça ne surgit pas de nulle part. Donc ça me paraissait important de le raconter. Sur votre question sur le Trumpisme plus grand que Trump aujourd'hui, c'est aussi pour dire que en 2024, Trump, la coalition qui le soutient, donc il y a toujours cette branche MAGA qui correspond à Steve Bannon, aux évangéliques, à toute cette mouvance, mais il y a une autre aile importante, une autre branche importante qui le soutient, qui est tous ces patrons milliardaires géants de la tech. Elon Musk était le plus visible, il vient de quitter la Maison Blanche, mais il y en a beaucoup d'autres autour et Ils sont aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes qui sont à des postes clés dans l'administration. Et donc, même si Musk est parti, toute cette influence-là, elle va être très importante pour la suite.
Alors justement, écoutons Elon Musk qui s'exprimait il y a quelques jours sur la chaîne CBS News. Il évoquait naturellement son départ de la Maison Blanche.
Vous savez, j'ai été déçu de voir l'énorme projet de loi sur les dépenses qui augmente le déficit budgétaire au lieu de le réduire. Et qui sape le travail accompli par l'équipe du Doge. Je pense qu'un projet de loi peut être grand ou beau, mais je ne sais pas s'il peut être les deux à la fois. C'est mon opinion personnelle.
Comment est-ce que vous expliquez, Maya Kandel, plus que ce départ, les raisons avancées par Elon Musk lui-même de ce départ? Est-ce qu'il fallait en trouver par ailleurs, ou est-ce qu'elles sont, selon vous, profondes et sincères?
Alors, Musk avait un statut d'employé spécial fédéral, donc qui est de toute façon limité à 130 jours. Donc, de toute façon,
il ne pouvait pas rester structurellement.
Ben sinon, il y avait quand même un certain nombre de mesures à prendre par rapport à ses entreprises, etc. Donc, c'était prévu qu'il parte fin mai. Je pense que la déconfiture de son soutien à des élections en mars, et puis il y avait un côté totalement ridicule. Il est apparu avec un fromage sur la tête. Enfin, bref, ça a joué et les Républicains ont perdu l'élection. Donc, ça a joué aussi pour accélérer son départ. Mais encore une fois, il a vraiment imprimé sa marque. Le Doge reste. Le Doge, c'est vraiment l'expression d'un autre intellectuel, philosophe, pseudo-philosophe de la Silicon Valley qui avait théorisé ça avec un autre acronyme. Bon. Et puis Musk, vraiment, c'est un symbole de cette droite tech de la Silicon Valley qui... Aujourd'hui, notamment pour ce qui concerne les secteurs de la défense, est vraiment en place et transforme déjà même des concepts comme la dissuasion ou même l'idée de la le cœur de la politique étrangère, la mission de défense de la civilisation occidentale. Il y a un certain nombre de gens qui portent aussi ces idées-là, qui sont très prégnantes dans l'administration Trump actuelle.
Vous avez parlé des MAGA, vous avez évoqué également la droite tech, on vient de le faire à travers la figure d'Elon Musk. Quel est le poids, en revanche, des NatCon, des nationalistes conservateurs, dont est issu notamment le vice-président américain J.D. Vance? Quel est le poids, justement, de ce groupe-là dans la structuration d'une idéologie trumpiste?
Alors, ce mouvement national conservateur, c'est vraiment l'armature idéologique du trumpisme aujourd'hui. Avec ce bémol, encore une fois, que Trump reste le principal facteur perturbateur de toute construction idéologique. Donc, il peut pulvériser, dynamiter toute une construction, par exemple sur le commerce notamment, par un tweet ou un truth social impromptu et improvisé. Mais ce mouvement est intéressant parce que c'est vraiment un groupe qui, au départ, un petit groupe qui se réunit fin 2016, donc après sa première élection, mais qui, dès l'origine, cherche à re-théoriser, d'une certaine manière, l'armature intellectuelle et les propositions politiques, donc, du Parti républicain, pour coller à ce nouveau socle électoral que Trump a réuni. Et ce nouveau socle, il a réellement transformé le Parti républicain. Aujourd'hui, la majorité des électeurs du Parti républicain sont les moins fortunés, les moins diplômés. C'était l'ambition au départ de Steve Bannon, par exemple, mais c'est vrai que Trump l'a accompli si on regarde les résultats électoraux de 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement, en fait, qui progressivement, donc sur à partir sur 6 ans, a fédéré toutes les composantes de la droite américaine, a fini par rallier le principal centre de réflexion, incubateur d'idées du Parti républicain à Washington, qui est la Fondation Heritage, et en plus, alors ça c'est plus pour l'impact sur nous, mais a une ambition aussi internationale. Et donc ce sont tous ces gens-là qui ont, par exemple, rédigé le projet 2025, qui est ce document de plus de 900 pages, qui aujourd'hui inspire l'action de Trump au gouvernement. Évidemment, donc Trump peut perturber sur les sujets sur lesquels il intervient, mais il n'intervient pas sur tout. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels son administration avance. Et c'est véritablement les auteurs de ce rapport, son coordinateur aujourd'hui c'est Russell Vaux, c'est un des personnages les plus importants de l'administration. Stephen Miller joue un rôle, c'est monsieur immigration de Trump. Bref, ils sont tous en place au poste clé de l'administration. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est les fournisseurs officiels du Trumpisme aujourd'hui.
Votre ouvrage, Mike Handel, une première histoire du Trumpisme, je le rappelle, c'est aussi un chemin pour tenter de comprendre pourquoi des électeurs, in fine, votent pour Donald Trump. Alors, est-ce qu'à votre avis, ce qui les intéresse, c'est ce personnage, sa mise en scène, ce qu'il représente, ce qu'il incarne? Est-ce que c'est Donald Trump lui-même, ou est-ce que c'est bien plus le Trumpisme qui les attire?
Je vais encore faire une réponse nuancée, c'est les deux. Allez-y. En réalité. Bien sûr, justement, on parlait du mouvement national conservateur. À un moment, ils ont caressé l'ambition de trouver un autre candidat qui ne soit pas Trump et qui donc aurait été un peu plus maîtrisable, un peu plus gérable. Mais ça n'a pas marché. On l'a vu très rapidement lors des primaires en 2024. Hein, il y avait beaucoup de candidats face à Trump. Il les a écrasés en quelques semaines. Et donc il y a cette incarnation de Trump qui fait le show, elle est absolument essentielle. Ensuite, dans les catégories d'électeurs de Trump, si je devais schématiser vraiment très 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 sommairement, il y a des gens qui votent parce qu'ils adhèrent à ce qu'il dit, à toutes ses sorties, ses diatribes, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui votent malgré, en dépit des propos de Trump, et qui eux voient davantage, alors à la fois l'image du businessman qui reste prégnante aux États-Unis, et puis aussi beaucoup de gens qui se souviennent, pour ceux qui se souvenaient de la première administration Trump avant la pandémie de Covid, c'est une période de prospérité économique où effectivement le revenu médian des Américains a augmenté, et donc il y a ce souvenir là alors que effectivement le mandat de Biden, il y a eu une inflation inédite depuis 40 ans, une explosion du taux de pauvreté, donc ces aspects là ont marqué. Mais je pense qu'au-delà, un des aspects importants que j'essaye un peu de creuser dans mon livre aussi, c'est le Trumpisme comme stratégie de la victoire électorale aujourd'hui, avec cette idée que ce sont les guerres culturelles, les conflits idéologiques qui constituent la nouvelle lutte des classes. Il a très bien réussi à faire ça. Et avec aussi l'ampleur de la désinformation, des manipulations de l'information et beaucoup de gens qui aujourd'hui, bon, ça c'est un phénomène qui nous concerne tous aussi ici. On a une fragmentation du paysage médiatique que Trump a accompagné. La campagne 2024 a été marquée vraiment par une ampleur de la désinformation, y compris fabriquée par Musk lui-même et financée par Musk. Et voilà, il y a eu ce que propose aussi le Trumpisme. Ce qui est frappant, c'est qu'il arrive encore à incarner aujourd'hui le sentiment anti-système, pour le dire brièvement, alors qu'il a été 4 ans au pouvoir et qu'aujourd'hui les républicains dominent tous les leviers du pouvoir politique, médiatique, voire culturel aux États-Unis.
Justement, est-ce que Donald Trump peut perdre beaucoup à travers ces différentes reculades, notamment du point de vue du protectionnisme? Écoutons Donald Trump qui s'exprimait il y a 3 jours. On le traite désormais de Taco Trump Always Chickens Out. Trump se dégonfle toujours, c'est ce que ça veut dire.
Je me suis dégonflé. Je n'ai jamais entendu cette expression. Vous voulez dire que parce que j'ai ramené les droits de douane de la Chine de 145% à 100%, puis à un autre chiffre plus bas encore, et parce que j'ai accordé à l'Union européenne un droit de douane de 50%, il y a 6 mois, ce pays était complètement mort. Nous avions un pays mort. Nous avions un pays dont les gens ne pensaient pas qu'il allait survivre. Et vous me posez une question désagréable comme celle-là. À bien des égards, je pense que nous avons énormément aidé la Chine. Ils avaient de grandes difficultés parce que nous étions en train de nous sevrer et de nous désintéresser d'eux. Nous ne faisions pas d'affaires à cause des droits de douane trop élevés. Mais ne redites jamais ce que vous avez dit. C'est une vilaine question.
Un pays mort, Maya Kandel, lui aussi, Donald Trump est dans la nuance. Tout de même, est-ce que ces reculades peuvent coûter à Donald Trump, on s'en doute, mais est-ce qu'elles peuvent coûter au trumpisme également, qui est quand même une idéologie de la victoire, de l'action permanente, et on s'en doute d'un soi-disant courage?
Alors, je pense qu'il faut bien interpréter ces reculades. Ça, c'est un mot des adversaires de Trump. Et ça vient notamment de Wall Street, qui a un vrai souci avec l'incertitude créée par Trump et tous ces revirements. En revanche, pour Trump, commencer très haut et redescendre, c'est une tactique de toujours. C'est quelque chose qu'il faisait quand il était...
C'est de la négociation.
C'est de la négociation, en fait. C'est ce qu'il explique dans son premier livre, qui s'appelle d'ailleurs « L'art de la négociation », où il raconte comment il a fait tous ses premiers projets à New York. Et c'est toujours des tactique comme ça. Il va arriver, il va dire je vais m'occuper de la patinoire pour tant d'argent, puis finalement ce sera pas du tout la même somme, mais elle sera quand même intéressante pour lui. Donc il y a vraiment une tactique derrière ça. En revanche, je pense qu'il est effectivement très très énervé par le sobriquet Taco, et très contrarié, on l'a vu aussi avec les attaques ce week-end, très contrarié par les juges qui refusent les autorités qu'il a invoquées jusqu'à présent. Mais encore une fois, il a d'autres autorités légales qu'il peut invoquer, y compris pour les tarifs. Donc je pense que c'est toujours une affaire à suivre.
Un groupe social politique que l'on voit moins en France, que l'on perçoit moins, peut-être parce que c'est moins notre prisme. Je parle du prisme religieux et je parle d'un groupe, la droite évangéliste blanche. Quelle est l'influence de ce groupe, là encore, une fois de plus, sur le trumpisme comme idéologie ?
Alors ça, elle est absolument cruciale, de par aussi son poids tout simplement dans les élections des primaires républicaines. Hein, c'est vraiment le cœur de la base républicaine. Et ce qui est nouveau, alors son arrivée en politique, elle n'est pas récente, hein, elle commence déjà à s'associer au Parti républicain sous Reagan. Mais il y a un phénomène qui pour moi est vraiment une des sources du trumpisme, qui est le mouvement Tea Party, qui est un mouvement qui se développe au moment de l'élection d'Obama, notamment parce que par rapport au choc de l'arrivée du premier président noir. Et dans ce mouvement Tea Party, les évangéliques constituent le cœur de ce mouvement. Ils sont aussi portés par celle qui est l'égérie de ce mouvement, qui est Sarah Palin. Sarah Palin, c'était la candidate à la vice-présidence avec John McCain en 2008. Donc, ils avaient perdu face à Obama. Mais Palin était instantanément devenue un phénomène auprès des évangéliques. Elle parlait beaucoup de sa famille très nombreuse, de ses armes encore plus nombreuses. Elle avait une espèce de franc-parler, une capacité en fait à choquer les élites médiatiques, à choquer le Parti démocrate, que Trump a beaucoup repris à son compte aussi. Et donc il y a une vraie filiation en fait du Tea Party au trumpisme, dont le cœur est réellement cette base évangélique blanche.
Une fois n'est pas coutume, on va citer Donald Trump encore en 1999, il déclarait au Wall Street Journal « Les États-Unis ont besoin d'un président comme moi qui ne soit pas un professionnel de la politique ». Est-ce que les Américains ont encore ce sentiment-là, qu'il n'est pas un professionnel de la politique, qu'il reste un outsider à la Maison-Blanche ?
Oui, je crois que ça reste collé à son image. C'est un des mystères, hein. C'est comme cet aspect anti-système, alors même qu'il est désormais au cœur du système politique et qu'il l'était depuis son premier mandat en 2016. Il a gardé la main sur le Parti républicain, donc c'est pas quelqu'un qui est hors du système. Mais il y a vraiment cet attrait de Trump qui garde ce côté businessman. Par ailleurs, il continue à faire des négociations qui sont très bonnes pour ses entreprises et sa famille. Et je pense que oui, ça reste au cœur de son attrait.
En quelques mots, Trump refuserait, c'est ce que vous avez pu dire, de voir émerger un trumpisme en tant qu'idéologie. Il fait partie de ces responsables politiques qui ont peur justement qu'une idéologie les entoure et peut-être les étiquette, les catalogue, les mette dans un tiroir particulier.
Ah, je sais pas, parce que je crois qu'il est très... En tout cas, il revendique d'être vraiment à la tête d'un mouvement politique. Il a d'ailleurs tendance à exagérer l'ampleur de sa victoire en 2024. En revanche, c'est clair qu'il ne veut pas encore laisser la main à celui qui a été un peu considéré comme son dauphin, J.D. Vance, même si c'était tout à fait frappant de le voir nommer J.D. Vance l'été dernier, hein, qui produit des nationaux conservateurs, produit de la droite tech, quelqu'un qui a beaucoup changé à la fois de nom de famille et d'idéologie. Mais quand je vois par exemple Trump faire monter Rubio, je pense qu'il y a cette idée que Vance ne prenne pas trop vite la grosse tête et ne croit pas qu'il est l'héritier présumé du trumpisme.
Merci beaucoup Maya Candel. Je rappelle le titre de cet ouvrage donc, qui paraît aux éditions Gallimard, une première histoire du trumpisme. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci à vous.